Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Bernard Ezembert. C'est un homme remarquable, polytechnicien, X-mine, conseiller industriel et scientifique du président Georges Pompidou, président de la compagnie financière Edmond de Rothschild, vice-président du conseil de surveillance du groupe Lagardère, président puis vice-président du groupe Bolloré, président de l'école polytechnique, président de l'Institut Pasteur. Vous avez écrit en 1977 le troisième conflit mondial, en 91 la guerre économique mondiale, en 94 Pompidou capitaine de l'industrie et en 2013 une vie d'influence dans les coulisses de la 5e République pour lequel vous obtenez le prix Saint-Simon. Un parcours d'une très grande richesse mêlant fonction publique, secteur bancaire, recherche, vie littéraire et enseignement. Et à propos d'enseignement, vous êtes venu à Nogent-le-Rotrou, invité par le professeur d'économie du lycée Rémi Bellot, et vous avez très gentiment expliqué ce que vous entendiez par économie, par guerre économique. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais que nous revenions sur l'ouvrage que vous aviez écrit en 1977, le troisième conflit mondial. Bernard Ezembert, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, est-ce que la compétition économique entre les États, et chaque jour nous en sommes les témoins, est-ce que c'est vraiment, ça nous renvoie à la notion de guerre ?
À mes yeux, oui. Alors, l'expression en question, je l'avais utilisée dans un article en 1971. Donc, la date de naissance, si j'ose dire, de la guerre économique, c'est la véritable date de naissance, c'est 1971. Ah oui. Mais j'avais envie de formaliser tout ça et de développer le thème. Et voilà, ça m'a amené à écrire le troisième conflit mondial paru en 1977. Alors, que les entreprises soient plongées dans une guerre économique mondiale qui les amène à exporter toujours davantage, à s'implanter dans le monde avec des usines, puis maintenant des laboratoires de recherche un peu partout, pour développer, amplifier ses exportations, naturaliser les produits partout où on souhaite les vendre. C'est pour moi une évidence, d'autant que ces entreprises, qui suivent tous ce modèle, ou en tout cas la très grande majorité d'entre elles, sont incitées à le faire par les nations, qui sont le lieu de rencontres culturelles de leurs dirigeants, sont incités par les États à le faire, l'État ménageant un environnement économique, fiscal, financier à ces entreprises pour les inciter justement à se développer et à exporter toujours davantage, et ce faisant d'ailleurs à créer davantage d'emplois sur la base arrière, si j'ose dire, pour reprendre déjà une partie du jargon militaire qui m'imprègne dans ce domaine. Et donc les nations trouvent un bénéfice certain au développement de cette guerre économique quand elles réussissent à faire en sorte que l'ensemble de leurs entreprises se comportent vaillamment dans cette forme de compétition, en y voyant, en y trouvant de la création d'emplois, et le plus souvent d'ailleurs d'emplois de niveau relativement élevé. Alors l'analogie va beaucoup plus loin, je veux dire, on pourrait la prolonger dans le domaine des armes et des défenses de la guerre économique. Parmi les armes, il y a une espèce de consensus social qui fait que certains pays arrivent mieux que d'autres à créer ce consensus au sein des entreprises et des salariés de ces entreprises.
Ça, je crois que c'est quand même bien quand ça peut être comme ça.
C'est un élément essentiel. Hein, je veux dire, dans la compétition économique, il faut que les entreprises aient envie de se battre, puisque c'est quand même le terme qu'il faut employer, mais avec le soutien de leurs salariés. Bien entendu, elles ne peuvent pas aller contre. Et puis, il y a d'autres armes. Il y a la recherche-développement, l'innovation. bien sûr, leur taux de recherche et développement et d'innovation, le fait qu'elles créent cet état d'esprit par lequel elles inventent de nouveaux services, de nouveaux produits, on pourrait en citer bien d'autres. Et puis du côté des défenses, il y a les barrières douanières, mais qui ont fondu comme neige au soleil avec toutes les grandes négociations mondiales, le Nixon Round et bien d'autres. Et puis des barrières non douanières, mais non moins efficaces, par des quotas ou par mille moyens que l'ingéniosité des États a mis en œuvre pour freiner justement ce commerce mondial. Donc cette expression de guerre économique a du sens. Alors les morts, qui sont les morts de la guerre économique, ce sont les chômeurs. Un pays qui n'arrive pas à susciter cet élan vers le développement mondial des entreprises, eh bien, reste en arrière par rapport aux autres et crée, hélas, chez lui du chômage. Et alors, ceci explique la mobilisation que quasiment tous les États ont créée en faveur de cette forme de compétition des temps modernes.
Mais alors, une fois qu'on a vu qu'il y avait guerre, alors justement, comment se battre, c'est ça. Vous-même, quand vous étiez au cabinet de Georges Pompidou, vous emmeniez, je me souviens, vous me l'aviez raconté, vous emmeniez des chefs d'entreprise avec vous quand il y avait les diplomates pour la vie politique. Est-ce que ça, c'est déjà un moyen pour... Alors, expliquez-nous cela.
Alors, c'est un moyen, c'est pas le moyen essentiel.
Non, mais c'est un moyen.
Mais je le cite, j'en dis juste un mot. Au passage, c'est Georges Pompidou qui a inventé ce concept, d'ailleurs. Il m'a convoqué un jour en me disant « Je pars à Moscou en voyage officiel dans 15 jours. Monsieur Zambert essayait de faire en sorte que le lendemain de mon arrivée, je puisse présider un déjeuner à l'ambassade de France à Moscou avec une vingtaine de chefs d'entreprise françaises qui ont des marchés en cours d'élaboration, de négociation avec les soviétiques, de façon à ce qu'ils tirent profit de leur présence à Moscou et de mon passage pour aller plus loin. Alors j'ai passé une vingtaine de coups de fil à des grands chefs d'entreprise qui m'ont dit « Mais de quoi se mêle le président de la République ?»
Ah oui.
Et donc j'ai eu beaucoup de mal à bâtir ce déjeuner au départ. C'était la première fois qu'un chef d'État emmenait dans son sillage des chefs d'entreprise.
Et puis
finalement, je suis revenu à la charge et au bout de quelques jours, ils ont convenu que ça pourrait leur apporter quelque chose. Et le jour venu, il y avait effectivement 20 chefs d'entreprise à la table du président de la République et l'ambassade de France qui ont fait progresser leurs négociations. Et voilà, ça a démarré. Kissinger, célèbre conseiller de Nixon, puis secrétaire d'État du président Nixon, lui a emmené des corps d'entreprise avec lui dans ses voyages à l'étranger, comme Nixon d'ailleurs, et comme tous les chefs d'État européens peu à peu. Mais c'est Pompidou qui a eu cette idée le premier. Alors il y a bien d'autres façons, moins spectaculaires mais plus profondes, d'inciter les industriels à aller de l'avant. On peut garantir les investissements à l'étranger pour ceux qui créent des relais de valeur ajoutée sous forme d'usines ou de laboratoires de recherche et développement à l'étranger, ou on peut inciter fiscalement cette forme d'investissement, et puis surtout on peut par la COFAS, par d'autres moyens, assurer.
Alors COFAS, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas,
c'est une structure c'est une espèce de compagnie d'assurance qui justement assure les entreprises françaises sur les grands marchés à l'exportation, et qui joue un rôle important. Elle joue d'ailleurs actuellement, elle joue un rôle important dans l'histoire des navires qu'on devait vendre à la Russie. Enfin, il y a d'innombrables façons d'aider à la guerre économique. Sur la recherche-développement, eh bien, c'est sous Georges Pompidou qu'on a commencé à encourager les entreprises à investir dans la recherche-développement, qui débouche souvent sur l'innovation et sur nouveaux produits, pas toujours, mais très souvent. On a constaté une corrélation importante entre le taux de recherche-développement des entreprises et la création de nouveaux produits de ces entreprises et l'accroissement de leur valeur boursière, aux États-Unis notamment. Donc la corrélation est très nette. Et donc on peut encourager la recherche-développement en lui octroyant des avantages fiscaux, financiers, ce qui est le cas en France. Il y a le fameux crédit d'impôt de la recherche-développement. Enfin bref, l'État peut et doit effectivement se préoccuper de cette guerre économique. Il ne peut pas rester indifférent. Il est là derrière les entreprises. C'est lui qui modèle, dans le fond, la façon, tout ce qui régit la vie des entreprises.
Oui, parce que du temps de Pompidou, on a eu les 30 Glorieuses. Et alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait se renouveler ?
Alors, on a eu non seulement les 30 Glorieuses, mais parmi ces 30 Glorieuses, les 10 années où la France a vraiment dominé l'Europe, avec une avance de taux de croissance de 1% par an pendant 7-8 ans, ce que j'appelle pour ma part les 10 prestigieuses dans les 30 Glorieuses. Ce sont les 10 années où Pompidou a été Premier ministre, mais un Premier ministre qui commençait à apparaître en dehors de l'ombre portée du général.
Oui, et vous étiez à son cabinet.
Et où il est devenu président de la République,
Georges Pompidou.
Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé au cabinet de Georges Pompidou. Alors, est-ce qu'on pourrait renouer avec ce savoir-faire, cette espèce d'enthousiasme que la France a connu à l'époque, un enthousiasme tel que chaque chef d'entreprise de l'époque, et je ne parle pas des grandes entreprises, je parle des patrons de PME, parce que ce sont eux qui jouent un rôle essentiel. Ils représentent entre 60% et les deux tiers de l'exportation d'un pays, notamment de la France. Donc, c'est dire qu'ils jouent un rôle absolument essentiel. Mais à l'époque de Georges Pompidou, qui les recevait à sa table, qui les réunissait... Eh bien, chaque chef d'entreprise se croyait délégué d'une fraction de la souveraineté économique nationale. Quand il exportait davantage, quand il s'implantait à l'étranger, quand il mettait toutes ses forces à devenir un groupe de nature mondiale.
Mais il faut dire que vous êtes polytechnicien, donc vous aviez aussi envie que les entreprises soient prospères.
Ah, tout à fait.
J'avais
surtout la chance d'être au cœur d'un espèce de gigantesque maillage d'entreprises, de laboratoires de recherche-développement, d'ingénieurs de toute nature qui travaillaient dans ces entreprises, dans ces laboratoires, à telle enseigne que j'ai appelé d'ailleurs ce qui s'est passé à l'époque, pendant les 10 années où la France a été entraînée d'une certaine façon l'Europe, en tout cas a été en avance par rapport au reste de l'Europe, Allemagne comprise. L'écart de 1 point que j'évoquais tout à l'heure valait pour l'Allemagne. Nous avons pendant 7-8 temps battu l'Allemagne d'un point. Ça ne s'est plus jamais vu depuis, hélas. Eh bien, je qualifiais cette république de l'époque de république des ingénieurs. Parce que Pompidou avait su utiliser cet élan des ingénieurs qui vibraient sur ce thème. J'avais la chance d'être au centre de la toile d'araignée. Et voilà, je faisais descendre la parole présidentielle et remonter les informations du monde des entreprises vers le chef de l'État.
Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, même les jeunes n'ont plus envie de s'engager dans des métiers comme ça.
Il y en a, mais il y en a moins qu'à l'époque. On pourrait les remobiliser, on pourrait recréer cette dynamique. Mais je dois dire, malheureusement, ce n'est pas ce que je constate depuis la disparition de Georges Pompidou en avril 1974, sa mort. Malheureusement, je ne vois pas une seule époque où on ait eu vraiment ce sursaut. Il y a eu des velléités, des chefs d'État, des premiers ministres qui ont essayé de donner un élan, notamment Édith Cresson, pendant son bref passage à Matignon. Mais il n'y a rien eu de véritablement comparable à ce qu'on a connu sous Georges Pompidou.
Oui, maintenant c'est le développement de l'économie asiatique qui finalement renverse un peu la donne.
Oui, mais rien ne nous empêcherait d'être la singularité en Europe face à ce développement asiatique.
Donc il faudrait que vous reveniez pour mobiliser les entreprises, mais peut-être que...
Cher Christiane Bien, c'est vous qui le dites.
Mais peut-être que déjà avec la charte que vous allez... promulguer à propos du libéralisme tempéré, on aura peut-être un renouveau.
Écoutez, peut-être. Alors, cette charte peut, elle, avoir un rôle plus général, pardon de le dire, au niveau mondial, pour créer quand même un libéralisme supportable, qui ne soit pas rejeté par un certain nombre de gens dans le monde, et par un nombre malheureusement important et croissant. Est-ce que sur le plan économique, elle peut créer un élan? Oui, elle peut aussi créer un élan supplémentaire. Par le fait qu'elle donnerait quand même ses lettres de noblesse au libéralisme.
Eh bien, Bernard Heisenberg, un grand merci. Je crois que nous aurons compris cette remarquable histoire de l'économie. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Bernard Heisenberg.
Merci, chère Christiane Bien.